Léon Tolstoï, Ce qui fait vivre les hommes. Chapitre 1. Un cordonnier vivait dans un village avec sa femme et ses enfants. Il demeurait chez un moudjik, car il ne possédait ni maison ni champ et gagnait à peine de quoi nourrir les siens. Le pain était cher, le travail mal rétribué. Ce qu'il gagnait, il le mangeait. Il n'avait pour lui et sa femme qu'une seule chouba, encore s'en allait-elle en loques. Voilà déjà la deuxième année que le cordonnier cherchait de quoi s'acheter quelques peaux de mouton pour se faire une chouba neuve. Vers l'automne, il avait amassé quelque argent, et 3 roubles en papier se trouvaient dans le coffret de la baba. On leur devait aussi 5 roubles et 20 kopecks dans le village voisin. Un matin, le cordonnier résolut d'aller acheter les peaux de mouton. Il endossa la jaquette en nankin ouaté de la baba, mit par-dessus un cafetan de drap, plaça les 3 roubles dans sa poche, prit son bâton et partit après avoir déjeuné. « Bien, je toucherai les 5 roubles du moujik, pensait-il. J'y ajouterai mes 3 et j'achèterai des peaux pour une chouba. » Arrivé au village, il se rendit chez le moudjik. Il n'était pas là. La baba promit d'envoyer son mari avec l'argent dans la semaine, mais elle ne donna rien. Chez un autre, on lui jura qu'on n'avait rien pour le payer. On ne lui donna que 20 kopecks pour un ressemelage. Le cordonnier croyait pouvoir acheter les pots à crédit, mais le marchand ne voulut pas lui faire crédit. « Apporte-moi l'argent, dit-il, et alors tu choisiras les marchandises que tu voudras, car nous savons combien il est malaisé de nous faire payer. » Le cordonnier ne fit pas d'affaire. Il ne reçut avec les 20 kopecks pour un ressemelage qu'une vieille paire de vanki qu'on lui donna à raccommoder. Il s'en alla, fort triste, au cabaret, et boire ses 20 kopecks, puis se remit en route sans les pots. Le matin, il avait eu froid tout le long du chemin, mais après avoir bu, il avait chaud et sans chouba. Le voilà qui trotte, qui frappe de son bâton le sol glacé. Il s'égaye, il fait tournoyer les valenki. Il se disait « J'ai chaud sans chouba, car j'ai bu un peu. Le vin court dans mon ventre, à quoi bon une chouba toute neuve ?» Je m'en vais, oubliant ma misère. Voilà l'homme, voilà comme je suis. Qu'est-ce que cela me fait? Je puis bien vivre sans chouba. Toute ma vie, je m'en passerai. Mais il y a une chose, la baba sera affligée. En vrai, il y a de quoi. On travaille pour eux. Ils vous font courir, peiner, suer, ces moujiks. Attends un peu, tu m'apportes pas d'argent. Je te tire ma révérence, vrai Dieu, je t'envoie promener. Quelles sont ces manières de payer par des 20 kopecks? Que peut-on faire avec 20 kopecks? On les boit au cabaret, voilà tout. Alors ils vous disent, la misère, ta misère à toi et la mienne donc. Tu as une maison, du bétail et tout, et moi, je n'ai que moi. Tu manges le pain qui vient dans ton champ, et moi, j'achète le mien, coûte que coûte. J'ai besoin de 3 roubles par semaine. Quand je reviens chez moi, le pain est mangé. Encore 1,5 rouble à dépenser. Donne-moi donc mon dû. » Le cordonnier arrive ainsi près de la chapelle, au tournant de la route. Il voit derrière la chapelle quelque chose de blanc. Le jour tombait, le cordonnier distingue mal. « Qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y avait pas de pierre blanche ici. Est-ce une vache? Non, cela ne ressemble pas à une vache. Du côté de la tête, on dirait un homme. Et pourquoi est-il blanc? Et pourquoi y aurait-il un homme ?» Semen s'approche. Il voit plus clair. « Quel miracle! Oui, c'est bien un homme, vivant ou mort. » Il est assis, il est tout nu. Appuyé contre le mur de la chapelle, il ne remue pas. Le cordonnier prend peur, il pense. Oh, on a tué quelqu'un, on l'a dépouillé et jeté là. Si je m'approche seulement, je ne verrai plus la fin de mes ennuis. Il passe, contourne la chapelle et ne peut plus voir l'homme. Au bout de quelques instants, il se retourne et voit que l'homme s'est écarté du mur, qu'il remue et semble le regarder fixement. Plus effrayé que jamais, le cordonnier se signe et se demande s'il doit revenir sur ses pas ou se sauver. Si je vais auprès de lui par semaine, il peut m'arriver malheur. Qui sait quel homme c'est? Sa présence ici me paraît suspecte. Il va me sauter à la gorge et je m'en tirerai peut-être pas. S'il ne m'étouffe pas, j'aurai peut-être du mal avec lui. Mais que faire avec un homme tout nu? Je ne peux cependant pas me déshabiller pour l'habiller, lui donner mon unique vêtement. Mais que Dieu me sauve donc d'ici! Et il pressa le pas. Tout à coup, il s'arrêta sur la route. Que fais-tu, Siemen? Se dit-il. Mais que fais-tu? Un homme se meurt dans la peine et toi, tu prends peur, tu te sauves. Serais-tu devenu un niche richard? Craindrais-tu de dépouiller de trésors? Oui, ce n'est pas bien, ces mères. Chapitre 2. Aussitôt, Sémen retourna vers la chapelle et marcha droit à l'homme. Une fois près de lui, il se mit à l'examiner. L'homme était jeune et robuste, aucune trace de violence ou de coups sur son corps nu, mais il était transi de froid et avait l'air épouvanté. Assis contre le mur, il ne regardait pas Siemen. Comme épuisé, il ne pouvait soulever ses paupières. Siemen se pencha vers lui et l'homme se ranima soudain, ouvrit les yeux, tourna la tête et le regarda. Le cordonnier n'eut pas plus tôt vu ce regard qu'il se mit à aimer l'homme. Il laissa tomber sa valesquille, détacha sa ceinture, ôta son caftan. Voyons, dit-il, pas de paroles inutiles. Habille-toi, allez vite, voyons. Il prit le malheureux dans ses bras, le souleva, le mit sur pied, et regarda son corps si fin, si blanc, et son doux visage. Sémène lui mit son caftan sur les épaules, mais l'homme ne pouvait pas passer les manches. Sémène les lui passa, ferma le caftan, lui attacha la ceinture, ôta sa casquette déchirée et voulut en coiffer l'homme. Mais il se sentit froid à la tête et il pensa: Bon, je suis chauve de toute la tête, tandis que lui a de longs cheveux bouclés. Alors il remit sa casquette. Il vaut mieux, se dit-il, lui mettre des bottes. Et s'agenouillant devant l'homme, Siemen lui chaussa les valenki. Puis le mettant debout, il lui parla. Te voilà, frère. Voyons, remue un peu, réchauffe-toi. Nous n'avons plus rien à faire ici. Que d'autres s'en mêlent. Nous pouvons nous en aller. Mais l'inconnu restait debout, sans parler, tout en regardant ses mains avec douceur. Il ne pouvait articuler un seul mot. Eh bien, pourquoi ne parles-tu pas? Nous ne pouvons pourtant pas hiverner ici, il faut rentrer. Voilà mon bâton, et appuie-toi là-dessus, et si tu n'as pas de force, eh bien, allez, détalons, marchons. Et l'homme marcha et ne resta pas en arrière. Ils vont ensemble, et Sémen dit: D'où es-tu? Je ne suis pas d'ici. Bon, je connais les gens d'ici, mais comment es-tu tombé là, derrière la chapelle? Je ne peux pas le dire. Mais t'aurait-on fait du mal? Non, personne ne m'a maltraité. Dieu m'a puni. Bon, il est entendu que tout est de Dieu, mais enfin, on vient toujours de quelque part. Où allais-tu? N'importe où, cela m'est indifférent. Sémène s'étonne. Cet homme n'a pas la figure d'un mauvais plaisant. Sa voix est douce, mais il ne dit rien de lui-même. Sémen songe qu'il y a bien des choses inexplicables et il dit à l'homme: Eh bien, viens chez moi, tu te réchaufferas un peu dans ma maison. Simène marche. L'autre ne reste pas en arrière, il marche à côté de lui. Le vent s'est levé et transperce la chemise de Simène. Le vin cuvé, il se dégrise et commence à geler. Il trotte en soufflant et pense « voilà bien, en voilà une chouba. Je pars pour acheter une chouba, je n'ai même plus un cafetan en rentrant, et je ramène encore un homme nu. Matrena ne m'en félicitera pas. » Matrena, c'est la baba. En pensant à elle, Semen prend l'ennui. Mais en regardant l'homme, il se rappelle le regard que celui-ci lui a jeté derrière la chapelle, et de joie, tout son cœur tressaute dans sa poitrine. Chapitre 3. La femme de Semen a fini son ménage de bonne heure. Elle a fendu du bois, apporté de l'eau, nourri les enfants, mangé, puis elle s'est mise à songer. Elle songe au pain. Faut-il cuire aujourd'hui ou demain? Il reste une grosse miche dans l'armoire. Si Semel a dîné au village, s'il ne soupe pas ce soir, il restera assez de pain pour demain. Elle tourne et retourne sa miche. Bon, je ne cuirai pas aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de farine, nous allons traîner jusqu'à vendredi. » Ayant serré le pain, Matrena s'assied près de la table pour rapiécer la chemise de son mari. Elle coud et elle pense à Siemen, qui est allé acheter des peaux de mouton. « Pourvu que le marchand n'ait pas trompé, il est si simple, mon homme, il ne trompera jamais personne, lui, et un enfant lui fera encore à croire. 8 roubles, c'est de l'argent. On peut acheter une bonne chouba, pas de première qualité, mais enfin, une chouba tout de même. L'hiver dernier était si rude sans chouba, impossible d'aller laver à la rivière sans fourrure. Et le voilà parti, ayant mis ma jaquette ouatée. Puis-je quitter le logis, ainsi dévêtu? Mais quel temps il y met, il devrait être là. Ne s'est-il pas arrêté au cabaret, mon faucon ? » À peine a-t-elle pensé à Semen qu'elle entend son pas sur le perron. Matrena laisse son ouvrage et va dans le vestibule. Elle voit entrer 2 hommes, Semen et un autre moudjik, tête nue, chaussée de Valensky. À la laine, Matrena s'aperçut tout de suite que Semen avait bu. Bon, « j'en étais sûr, » se dit-elle. En le voyant sans cafetan, les mains vides, silencieux, intimidé, le cœur manqua à la pauvre baba. Bon, il a bu l'argent, il est allé au cabaret avec quelques vauriens, et il l'amène ici, oh, c'est complet. Les laissant pénétrer dans l'isba, Matrena suivit en silence. Elle aperçut un homme jeune, maigre, pâle, vêtu de leur cafetan, sans chemise sur le cafetan, sans bonnet. Une fois entré, il resta sans mouvement et les yeux baissés. Et Matrena pensa, « Oh, c'est un mauvais gardement, il a peur. » Elle alla vers le poêle, boudeuse et maussade, attendant les événements. Simène ôta sa casquette et s'assit sur le banc comme un bon garçon. « Eh bien, dit-il à Matrena, tu nous donneras un souper. Je suis à jeun. » Sans se retourner, Matrena grommela entre ses dents. Elle s'arrêta près du poêle et, sans bouger, regarda tantôt l'un, tantôt l'autre en hochant la tête. Semen voit bien que la baba est furieuse, mais qu'y faire? Sans avoir l'air de rien, il prend la main de l'étranger. « Assieds-toi, frère, dit-il, soupons. » L'autre s'assied en silence. « Eh bien, femme, n'as-tu pas cuit ce soir ?» La colère prend Matrena. « Mais j'ai cuit, mais pas pour toi. Tu as bu jusqu'à ton bon sens. Il va chercher une chouba neuve et revient sans cafetan. Et il amène encore avec lui un vagabond tout nu. Mais je n'ai pas de souper pour vous autres ivrognes. » « Assez, Matrena, pas besoin de remuer la langue pour ne rien dire de bon. Il faudrait mieux de me demander d'abord quel est cet homme. » Mais commence par dire où tu as perdu l'argent, interrompit la baba. Simène porta la main à sa poche et en retira les 3 roubles. Mais voilà l'argent, Trofimov n'a pas payé, il a promis pour demain. La colère reprend Matrena de plus belle. Pas de chouba, le dernier caftan mis sur le dos d'un vagabond tout nu, que pour comble il a amené avec lui. Elle prend l'argent et va le cacher en disant: J'ai pas de souper, on peut pas nourrir tous les ivrognes nus. Eh, Matrena, tiens ta langue, prête l'oreille à ce qu'on va te dire. Moi, écoutez les sottises de l'imbécile qui a bu. Oh, que j'avais raison de me faire prier pour t'épouser. Ma mère m'avait donné de la toile, tu l'as bu. Je vais acheter une chouba et tu l'as bu. Semen essaie en vain d'expliquer qu'il n'a bu que pour 20 kopecks. Il veut dire comment il a trouvé l'homme. Matreda ne lui laisse pas placer un mot. Elle en dit deux à la fois, même ce qui s'est passé il y a 10 ans. Elle le lui jette à la tête. Elle parle, elle parle, elle parle, Matrena. Et puis elle saisit Siemen par sa manche. Rends-moi ma jaquette, je l'ai que celle-là, et tu me la prises. Tu l'as sur ton dos, chien broussaillé, que le malin t'emporte. Siemen veut ôter la jaquette. La femme tire, les coutures partent. Enfin, Matrena ressaisit sa jaquette. Cela jette sur la tête et se dirige vers la porte pour s'en aller. Mais soudain, elle s'arrête, prise de rage. Elle voudrait se dégonfler sur quelqu'un et savoir qui est cet homme. Chapitre 4. Debout sur le seuil, Matrena dit: Si c'était un brave homme, il ne serait pas tout nu, il aurait au moins une chemise. Si tu avais fait chose qui vaille, tu m'aurais dit d'où tu ramenais, c'était élégant. Mais je me tue à te le dire. Je passais près de la chapelle. Je trouve ce garçon à moitié gelé, tout nu. Nous sommes plus autant chauds, tant s'en faut. C'est Dieu qui m'a conduit vers lui. Il aurait péri cette nuit, que faire? Alors je l'ai pris, je l'ai vêtu, je l'ai amené chez moi. Apaise-toi, Matrena, c'est un péché. On doit mourir un jour. Matrena ouvrit la bouche pour riposter. Soudain, elle jeta les yeux sur l'étranger et se tut. Assis sur le banc, il se tenait immobile. Sa poitrine se soulevait, il étouffait, les mains croisées sur ses genoux, la tête baissée, les yeux clos comme oppressés. Matrena se taisait. Semen lui dit doucement: Matrena, n'as-tu plus Dieu dans ton cœur? En entendant ces paroles, la baba considéra l'étranger qui levait les yeux sur elle, et son cœur se fondit. Quittant le seuil, elle alla vers le poêle pour préparer le repas, posa l'écuelle sur la table, apporta le dernier pain et le kvass. Allons, mange, dit-elle. Siemen poussa l'homme vers la table. Approche, jeune homme. Il coupa du pain, le trempa et se mit à manger. Matrena s'assit au coin de la table, y posa ses coudes et le menton sur ses mains, regarda l'étranger. Une grande pitié la prit. Elle se mit à aimer ce malheureux. Aussitôt, l'étranger devint plus gai et, relevant la tête, regarda la pauvre femme avec un sourire. Le souper fini, la baba rangea la vaisselle et dit: D'où viens-tu? Je ne suis pas d'ici. Mais comment es-tu tombé là? Je ne puis le dire. Mais qui t'a dépouillé? Dieu m'a châtié. Et c'est ainsi, tout nu, que tu restais. Oui, c'est ainsi, tout nu, que je restais. Je gelais, ses mains m'a vu, a eu pitié. Il m'a mis son caftan, m'a dit de le suivre. Toi, tu as eu compassion de ma misère, tu m'as fait manger et boire. Que Dieu vous bénisse. Matrena se leva, ouvrit son coffre, en retira la vieille chemise de Siemen qu'elle avait rapiécée pour le lendemain, prit une paire de vieilles braies et, les donnant à l'étranger, lui dit doucement « Prends, je vois que tu n'as même pas de chemise, habille-toi, couche-toi où tu voudras, sur le banc ou sur le poêle. » L'étranger ôta le cafetan, mit la chemise et les braies, et s'étendit sur le banc. Matrena souffla la chandelle, ramassa le cafetan et grimpa sur le poêle à côté de ses mains. Elle se couvrit d'un bout du cafetan et se coucha. Mais elle ne put dormir. L'étranger la préoccupait, et puis elle songea qu'on avait rangé tout ce qui restait de pain, qu'on en manquerait le lendemain et que la chemise et les braies de Siemen étaient données, et elle se sentait triste et inquiète. Mais en se rappelant le sourire de l'étranger, elle eut un tressaillement de joie. Longtemps, Matrena ne put dormir. Siemen ne dormait pas non plus et tirait le cafetan de son côté. « Siemen, eh ?» « Le pain est tout mangé, je n'ai pas cuit aujourd'hui. Que ferai-je demain? Dois-je demander à notre commère Mélania de m'en prêter demain? Mais nous vivrons, nous aurons de quoi manger. » Un silence. Cet homme a l'air bon, pourquoi ne dit-il rien sur lui-même? Bon, sans doute que c'est défendu. C'est même, quoi? Nous donnons et personne ne nous donne. Siemen ne sut que répondre. Bon, c'est causé, dit-il en se retournant. Et ils s'endormirent. Chapitre 5. Siemen s'éveilla de bonne heure. Les enfants dormaient encore. La baba était sortie pour demander du pain à sa voisine. Seul, l'étranger était assis sur le banc, les yeux en l'air. Son visage était plus serein que la veille. Et Siemen dit « Eh bien, ma chère tête, le ventre demande du pain et le corps des vêtements. Il faut suffire, se nourrir. Tu sais travailler ?»«
Je ne sais rien. »
Siemen ouvrit de grands yeux et dit « On apprend ce que l'on veut, quand la bonne volonté ne manque pas. »
Tout le monde travaille, je ferai comme les autres.
Comment t'appelles-tu ?
Mihail.
Eh bien, Mihail, tu ne peux rien dire sur toi. Bon, c'est ton affaire. Mais il faut manger. Si tu fais ce que je te dirai, je te nourrirai.
Oh, que Dieu te sauve. Enseigne-moi, montre-moi ce que j'ignore.
Siemen prit du chanvre et se mit à tordre le fil. « C'est pas malin, regarde !» Mihail regarde, prend le chanvre à son tour, tord le fil, et aussitôt Siemen lui apprend à tailler, à coudre, à pousser la laine, à mettre les semelles, à piquer les coutures. Dès la troisième journée, quelque travail qu'on lui montra, Mihail comprenait de suite. Il travaillait si proprement qu'on eût pu croire qu'il avait fait des bottes pendant 100 ans. Il ne perdait pas une minute, mangeait peu. L'ouvrage achevé, il restait dans son coin, les yeux en haut, en silence, parlant peu, ne riant jamais, ne sortant jamais. Et on ne le vit sourire qu'une seule fois, le premier soir, quand la baba lui avait servi à souper. Chapitre 6. Jour par semaine, semaine par semaine, une année se passa. Mihail continuait à vivre et travailler chez Siemen. L'ouvrier devint célèbre. Nul ne faisait des bottes aussi propres, aussi solides que Mihail, l'ouvrier de Siemen. On le connaissait à 20 lieues à la ronde et Siemen commença à s'enrichir. Un jour d'hiver, le patron et son ouvrier travaillaient ensemble, lorsqu'un vosok, attelé de 3 beaux chevaux, dont les grelots sonnaient joyeusement, s'arrêta à la porte de l'isba. Un valet sauta du siège, ouvrit la portière.
Un baril, enveloppé d'un chouba, a descendu du Vozok et monta les marches du petit perron. Matrena ouvrit la porte toute grande. Le baril se baissa, entra dans l'isba et se redressa. Sa tête touchait presque au plafond et remplissait à lui seul tout un coin de la chambre. Sémen salua le baril avec étonnement. Jamais il n'avait vu des hommes pareils. Sémen était trapu, Mireille fluet. Matrena semblait une vieille bûche séchée. Cet homme paraissait venir d'un autre monde. Sa face rouge et pleine, son cou de taureau, lui donnait l'air d'être bâti en airain. Après avoir soufflé avec force, le baril jeta sa fourrure, s'assit sur le banc et dit « Lequel de vous est le patron cordonnier ?» Sémen s'avança. « C'est moi, votre honneur, » dit-il. Le baril appela son valet. « Faites cas, apporte-moi le cuir !» Le domestique accourut avec un paquet qu'il posa sur la table. « Défais ce paquet !» L'autre obéit. Le baril montra le cuir à Sémen. « Tu vois bien ce cuir, cordonnier ?»«
Oui, votre honneur. »«
Comprends-tu quelle marchandise c'est ?» Sémen tâta le cuir et dit « La marchandise de première qualité. »«
C'est cela, elle est bonne, imbécile. Tu n'as encore jamais vu pareille marchandise. C'est du cuir d'Allemagne, entends-tu? Il vaut 20 roubles, ce cuir. »
Sémen, intimidé, répond « Où pourrions-nous voir tout cela, nous autres ?»«
C'est cela, peux-tu me faire des bottes avec ce cuir ?»«
Oh, certainement, votre honneur !» Le baril s'écria.
« Certainement, mais comprends bien, pour qui tu vas travailler et avec quelle marchandise. Fais-moi des bottes qui puissent durer un an, que je puisse les porter un an sans les tourner ni les déchirer. Si tu peux le faire, prends et taille ce cuir, sinon refuse. Je te le dis d'avance, si les bottes se déchirent avant un an, je te fous en prison. Si elles me servent un an, tu auras 10 roubles. »
Sémen, effrayé, hésite, ne sait que dire. Il regarde Mikhaïl, pousse du coude, et lui demande ce qu'il doit répondre. Faut-il accepter? Mikhaïl fait signe que oui, et Sémen accepte, s'engageant à livrer des bottes qui ne tourneraient, ne se déchireraient pas jusqu'au bout de l'année. Le baril appelle le valet, tend son pied et dit « Eh bien, prends la mesure !» Le pied du baril est si gros qu'il faut tailler une seconde feuille de papier, quoique la première soit déjà fort grande. Sémen prend la mesure de la semelle, du coup de pied, et se met à mesurer le mollet. Mais le papier n'en peut faire le tour. Le mollet est gros comme une poutre. Tandis que Sémen prenait mesure, le baril dévisageait tout le monde, et il aperçut Mikhaïl.
« Et qui est celui-là » dit-il.
« Mais c'est mon ouvrier, celui qui fera les bottes, » dit Sémen.
« Attention, qu'elle me serve un an !»
Sémen lève les yeux sur Mikhaïl. Mikhaïl s'aperçoit qu'il ne regarde même pas le baril. Il regarde au-dessus, au-delà du baril, comme s'il voyait quelque chose. Il regardait Mikhaïl. Tout à coup, il sourit avec sérénité.
Pourquoi ris-tu, imbécile ? Dit le baril. Veille plutôt à ce que mes bottes soient prêtes à temps.
Mikhaïl répondit. Vos bottes seront prêtes au moment voulu.
Je l'entends bien ainsi, s'écria le baril en remettant sa chouba.
Il se dirigea vers la porte. Mais ayant oublié de se baisser, il se heurta le front contre la solive. Ce furent des cris, une colère, puis, se redressant, il se frotta la tête et remonta dans son vozok. Une fois le baril parti, Sémen dit « Voilà qui est fort comme une pierre à fusil. Il a rompu la solive et il s'en moque. » Et Matrena dit Avec la vie qu'il mène, comment ne serait-il pas un bel homme? Coulé en airain, la mort même ne le prendra pas de sitôt. Semen s'adressa à Mikhaïl. Nous avons accepté cette commande, qu'elle ne nous cause aucun ennui. Le cuir est cher, le bar il est violent, pourvu que nous ne nous trompions pas. Tu as de meilleurs yeux, ta main est plus sûre. Voici les mesures, allez, taille-moi ce cuir, je ferai ta besogne en attendant. Mikhaïl obéit, il prit le cuir, le déroula et se mit à tailler. Matrena le regardait faire. Habituée au métier, elle s'étonna de voir Mikhaïl couper le cuir autrement que pour les bottes. Elle voulut parler, mais elle pensait. « Bon, je n'aurais sans doute pas compris quel genre de bottes il faut aux marines. Mikhaïl sait mieux que moi ce qu'il fait. Moi, je ne m'en mêle pas. » Mikhaïl fait une paire de chaussures qu'il coûte à la manière des sandaliers. Matrena s'en étonne, mais elle ne veut pas s'en mêler, et Mikhaïl continue à coudre. Le moment de dîner est venu. Semen se lève et voit que Mikhaïl a fait avec le cuir des sandales au lieu de bottes. Lui qui ne s'est jamais trompé en rien, Semen pousse un cri. « Ah ! Mais la marchandise est perdue, que vais-je dire aux marines ? Où trouver une pareille marchandise ?» Et il dit à Mikhaïl, « Oh, qu'as-tu fait, mon ami? Tu m'as perdu. Le mari m'a commandé des bottes, et toi, qu'as-tu fait ?» Au même instant, on frappe un grand coup à la porte. On regarde par la fenêtre, et on voit le domestique du mari qui attache son cheval à l'anneau de la porte. Semen lui ouvre. Le domestique est essoufflé. « Bonsoir, patron !» « Bonsoir, que nous veux-tu ? Ben là-bas, il y a un envoi pour chercher les bottes. »« Les bottes ? Oui, le mari n'a plus besoin de bottes, il n'en portera plus. La barinia vous souhaite de vivre longtemps. »« Comment ? Oh, il n'est même pas rentré vivant, il est mort dans le Rozoc. »« Nous arrivons, j'ouvre, et oh, je le vois couché au fond tout raide. » C'est à grand-peine qu'on a pu le retirer. La marinière m'a envoyé chez vous en disant « Va dire au cordonnier de faire des sandales pour un mort au lieu de bottes que le mari est venu commander en laissant du cuir. Qui se presse, attends, et rapporte avec toi les sandales. » Mikhaïl prit les sandales et ce qui restait du cuir, roula le tout proprement et remit le paquet au valet qui attendait. « Adieu, la compagnie, que l'heure vous soit propice. » Chapitre 8. Un an, deux ans se passent, et enfin voilà la sixième année que Mikhaïl demeure chez Semen. Les choses suivent toujours le même train. Il ne sort jamais, ne parle guère, et n'a souri que deux fois. La première, lorsque la baba lui donna à manger, la seconde à la visite du barine. Semen ne saurait trop se louer de son ouvrier. Il ne lui demande plus d'où il vient. Il ne craint qu'une seule chose, le départ de Mikhaïl. Un jour, ils étaient tous ensemble. Les enfants jouaient et grimpaient sur les bancs près des fenêtres. Matrena chauffait les fers à repasser. Semen poussait la laine. Mikhaïl achevait un talon. Un des enfants vint s'appuyer sur l'épaule de Mikhaïl, qui était près de la fenêtre, et lui dit « Regarde, oncle Mikhaïl, voilà une marchande avec deux petites filles. Elles se dirigent, je crois, de notre côté. L'une des petites est boiteuse. » À ces mots de l'enfant, Mikhaïl jette l'ouvrage et regarde au dehors. Semen s'étonne. Jamais Mikhaïl n'a regardé au dehors. Et le voilà collé à la vitre. Semen regarde à son tour à travers la fenêtre. Il voit en effet une femme, proprement mise, qui conduit deux fillettes enveloppées de petites pelisses avec des fichus en laine sur la tête. Mes enfants se ressemblent, impossible de les distinguer l'une de l'autre, mais l'une d'elles boite et traîne la jambe. La femme s'arrête à la porte, tire le verrou et entre dans l'isba en poussant les enfants devant elle. Bonjour, mes maîtres. Soyez la bienvenue, que désirez-vous? La femme s'assoit, les fillettes se serrent contre elle timidement. Il me faut des souliers pour mes petites. Ah, nous n'avons jamais rien fait d'aussi petit, mais on fait ce que l'on veut, nous essaierons. On peut les faire à rebord, on peut les faire avec doublure de toile, comment les voulez-vous? Mikhaïl, mon ouvrier, est très habile. Semen se retourne et voit Mikhaïl qui dévore des yeux les petites filles. Semen s'étonne de plus en plus. Il est vrai que les petites sont jolies, potelées, des joues roses, des yeux noirs. Les petites pelisses et les fichus sont gentils. Mais il ne peut pas comprendre pourquoi Mikhaïl les considère avec tant d'intérêt, comme s'il les connaissait déjà. Semen cause avec la femme, prend mesure. La femme place la petite boiteuse sur ses genoux en disant « Prends deux mesures de celle-ci. Tu feras un soulier pour le pied beau et l'autre pour l'autre pied. Leurs pieds sont les mêmes, elles sont jumelles. » Après avoir pris mesure, Semen dit en montant la boiteuse « Pourquoi est-elle estropiée? Est-elle née ainsi ?» Non, non, sa mère l'a estropiée. » Matrena se mêle à la conversation, curieuse de savoir. Qui es-tu? Dit-elle à la femme. Qui sont ces petites? N'es-tu pas leur mère? Oh non, je ne suis ni leur mère ni leur parente, ma bonne. Ce sont mes filles adoptives. Elles ne sont pas de ton sang. Et comme tu les choisis, mais comment ne pas les chérir? Je les ai nourries de mon lait, toutes les deux. Oh, j'ai eu un enfant aussi que Dieu m'a repris. Je ne le choyais pas autant que celle-ci. Mais à qui sont-elles?
Chapitre 9. Matrena se mit à bavarder avec la femme qui leur fit ce récit.
Il y a 6 ans qu'elles sont orphelines. Le père fut enterré un mardi, la mère mourut le vendredi. Orpheline de père avant de naître, la mère ne survécut pas même un jour à leur naissance. Je vivais alors au village avec mon mari, nous étions voisins, porte à porte. Le père était tout seul à travailler dans les bois, et un arbre lui tomba dessus, l'écrasa. Il perdait ses entrailles, si bien que de retour au logis, il rendit son âme à Dieu. Sa femme accoucha 3 jours après de ses 2 petites. Pauvre, solitaire, elle n'eut personne autour d'elle, ni sage-femme, ni servante. Elle accoucha seule. J'allais le matin pour la voir. J'entre et je la vois, la pauvre, toute froide déjà. En mourant, elle était retombée sur la petite et lui avait estropié le pied. Les gens s'assemblèrent, on leva, on ensevelit la morte, on lui fit un cercueil et on la mit en terre. Les voisins sont tous de braves gens. Les petites restaient seules, mais où les mettre? C'était alors la seule nourrice du village. J'allaitais mon premier-né depuis 8 semaines. Alors je l'ai pris pour quelque temps chez moi. Les moujiks se réunirent, on causa, on se demanda ce qu'on ferait d'elle. Et voici ce qu'ils me dirent. Maria, garde-les chez toi en attendant. Ces petites, nourris-les de ton lait et donne-nous du temps pour nous mettre d'accord. J'avais déjà donné à téter à l'une, mais je n'avais rien donné à l'autre. À la pauvre estropiée, où je ne pensais pas qu'elle pût vivre, et puis je me fis des reproches. Elle geignait, elle me fit pitié. Pourquoi cette petite âme d'ange doit-elle souffrir? Je la fis téter et je les allaitais tous les 3, le mien et les orphelines. Oh, j'étais jeune et forte, je mangeais bien, j'eus du lait avec abondance, le Seigneur me combla. Je faisais téter deux des enfants et le troisième attendait. L'un des deux allaitait, je prenais le troisième, et Dieu me fit la grâce de les élever. Le mien mourut 2 ans après, et Dieu ne me donna plus d'enfants. Cependant, nous avons acquis du bien et nous vivons maintenant au moulin chez un marchand. Nous avons de bons gages, la vie est facile, mais je n'ai pas d'enfants. Que ferais-je si je n'avais ces fillettes? Je serais seul. Comment ne pas les aimer, les choyer? Elles sont la joie de mes yeux, la cire de mon cierge. La femme pressa les enfants sur son cœur, embrassa la boiteuse et essuya ses yeux remplis de larmes. On vit sans peine, ni mère, on ne vit pas sans Dieu, dit le proverbe. Ainsi parlèrent-ils, et la femme allait s'en aller. Comme les patrons la reconduisaient, ils se retournèrent vers Mihail, et lui restait, les mains croisées sur les genoux, les yeux en haut, et il souriait. Semen s'approcha de lui et lui dit: « Que fais-tu, Mihail? » Mihail se leva, serra l'ouvrage, ôta son tablier, salua le patron et la patronne et leur dit: « Pardonnez-moi, patron, Dieu m'a fait grâce, faites-moi grâce aussi. » Et les patrons voient qu'une lumière émane de Mihail. Semen se lève, le salue et lui dit: « Oh, je vois, Mihail, que tu n'es pas un homme comme les autres et que je ne suis pas te garder ni t'interroger, je ne puis pas le faire. Dis-moi seulement une chose. Pourquoi étais-tu si sombre, si épouvanté quand je t'ai trouvé et amené chez moi? Pourquoi es-tu devenu serein quand ma femme t'a offert à manger? Tu as souri alors, tu t'es rasséréné. Et plus tard, quand le baril est venu commander des bottes, tu as encore souri et tu es devenu plus serein encore. Et à présent, quand cette femme a amené les petites filles, tu as souri une troisième fois. Et tu as rayonné. Dis-moi, Michael, pourquoi une lumière émane de toi et pourquoi tu as souri 3 fois? Et Michael répondit: Oh, je rayonne parce que j'étais puni. Dieu m'avait châtié et maintenant il m'a pardonné. Et j'ai souri 3 fois parce que je devais apprendre 3 paroles divines. Et j'ai appris les paroles. J'ai appris la première parole quand ta femme a eu pitié de mon dénûment. Alors j'ai souri pour la première fois. J'ai souri pour la seconde fois lorsque le baril est venu dans ton isba, parce que la seconde parole m'a été révélée alors. Et à présent, en voyant les petites filles, j'ai appris la troisième parole divine et j'ai souri pour la troisième fois. Et Siemen lui demanda: Dis-moi, Mihail, pourquoi Dieu t'avait châtié et quelles sont ses paroles pour que je les sache aussi? Et Mihail répondit: Dieu m'a châtié pour ma désobéissance. J'étais un ange au ciel et j'ai désobéi. J'étais un des anges du ciel. Le Seigneur m'envoya sur la terre pour chercher une âme, l'âme d'une femme. Je descendis sur la terre et je vis une femme couchée, malade, qui venait de donner la vie à 2 petites filles. Les enfants geignaient à côté de la mère, trop faibles pour leur donner le sein. Et quand elle me vit, elle comprit que Dieu demandait son âme. Elle pleura, supplia: Ange de Dieu, mon mari a été tué il y a 3 jours par la chute d'un arbre dans la forêt. Je n'ai ni mère, ni sœur, ni tante. Les orphelines n'ont que moi. Ne prends pas ma pauvre âme, laisse-moi élever mes enfants, que je les mette debout. Tes enfants ne peuvent pas vivre sans père ni mère. J'obéis à la femme, je mis un enfant à son sein et l'autre dans ses bras. Et je remontai au ciel et vins devant Dieu, et je lui dis: je n'ai pu emporter l'âme de la coucher. Le père a été tué, et elle a des jumelles. Elle m'a supplié de lui laisser le temps d'élever ses enfants, qui ne peuvent vivre sans père ni mère. Je n'ai pas pu emporter cette âme. Le Seigneur me répondit: va et rapporte-moi l'âme de cette mère, et tu connaîtras un jour trois paroles divines. Tu apprendras ce qu'il y a dans les hommes, ce qui n'est pas donné à l'homme et ce qui fait vivre les hommes. Quand tu auras appris ces trois paroles, tu reviendras au ciel. Je retournai sur la terre et j'emportai l'âme de la pauvre mère. Les enfants quittèrent le sein maternel. Le cadavre retomba sur le côté gauche, écrasant le pied d'une des petites filles. Et tandis que je m'élevais au-dessus du hameau pour rapporter l'âme au Créateur, un tourbillon me saisit. Mes ailes s'alourdirent, elles retombèrent. L'âme monta seule à Dieu, et je restai gisant à terre, au bord du chemin. Chapitre 11. Et Sémen et Matrena comprirent alors qui ils avaient vêtu et nourri, qui avait vécu avec eux. Ils pleuraient de joie et d'émotion, et l'ange leur parla encore. Je restais seul sur le chemin, seul et nu. Je n'avais connu jusqu'alors aucune des misères humaines, ni le froid, ni la faim. Je devins homme, j'eus faim, j'eus froid, et ne sus que devenir. Je vis une chapelle consacrée à l'Éternel, je voulus m'y réfugier, et la porte était cadenassée. Ne pouvant entrer, je m'assis sur le seuil, cherchant à m'abriter contre la bise. Le soir vint, j'eus froid, j'eus faim, je souffrais, je tremblais, la douleur me prit tout entier. Soudain, j'entendis des pas sur la route. Un homme venait, portant des bottes. Il parlait tout seul. Je vis pour la première fois la face mortelle de l'homme, depuis que j'étais devenu homme moi-même, et j'eus peur de cette face. Je me détournais. Je l'entendais qui se parlait à lui-même. Comment nourrir ma femme et mes enfants? Comment, pendant l'hiver, abriter contre le froid mes membres engourdis? Et je pensais: je péris de froid et de faim, et voilà cet homme qui passe. Il ne pense qu'à ses besoins à lui. Il ne saurait me secourir. L'homme me vit, il fronça les sourcils, devint terrible et passa. Je désespérais. Soudain, je l'entendis revenir. Je le regardais, je ne le reconnus plus. La mort avait été sur sa face, et à présent, il était redevenu un vivant, et je vis l'image de Dieu sur ce visage. Il vint à moi, il me vêtit, il me prit par la main et m'amena chez lui. Sa femme était sur le seuil de l'isba, et elle parla. Oh, la femme était plus terrible que l'homme. Le souffle de la mort sortait de ses lèvres. Le souffle mortel de ses paroles me coupa la respiration. Je défaillais. Elle voulut me renvoyer au froid, à l'agonie, à la mort, et je compris qu'elle mourait elle-même en me chassant. Et tout à coup, son mari lui parla de Dieu. Aussitôt, la femme se transforma. Elle me fit manger, et comme elle me regardait, je levai aussi les yeux sur elle. La morte était devenue une vivante, et je reconnus Dieu sur son visage. Et je me souvins des paroles de Dieu: tu connaîtras ce qu'il y a dans les hommes. Et j'appris ainsi qu'il y a dans les hommes l'amour. Et heureux d'avoir la révélation d'une des paroles divines, je souris alors pour la première fois. Mais je ne pus apprendre tout à la fois. Je ne comprenais pas encore ce qui n'est pas donné à l'homme et ce qui fait vivre les hommes. Je vécus chez vous un an. Le baril vint commander des bottes qui devaient durer d'un an sans tourner ni se déchirer. Je le regardais et je vis à côté de lui un de mes compagnons, l'ange de la mort. Personne ne le vit, hormis moi. Oh, je le connaissais. Je savais que le soleil ne serait pas encore couché quand l'âme du marine le quitterait, je pensais. L'homme accumule pour un an, mais il ne sait pas qu'il doit mourir avant la nuit. Et je me rappelais la seconde parole de Dieu. Tu connaîtras ce qui n'est pas donné à l'homme. Ce qu'il y a dans l'homme, je le connaissais déjà. J'apprenais maintenant ce qui n'est pas donné à l'homme. Il n'est pas donné à l'homme de savoir ce qu'il faut à son corps. Et je souris pour la seconde fois. Mais j'ignorais encore, je ne comprenais pas ce qui fait vivre les hommes. Je vécus ainsi, attendant toujours la révélation du Créateur, la dernière parole divine. Et la sixième année, la femme amena les jumelles. Je les reconnus et j'appris comment elles avaient survécu. J'appris tout alors et je pensais. La mère a pleuré pour ses enfants et j'avais écouté la mère. J'avais cru que ces orphelines étaient destinées à périr, et voilà qu'une femme, une étrangère, les a nourries et recueillies. Et quand cette femme pleura d'attendrissement en parlant de ces petites étrangères, qu'elle choyait, qu'elle plaignait, je vis en elle l'image divine de Dieu et je compris ce qui fait vivre les hommes. Je compris alors que Dieu m'avait révélé la dernière parole qu'il m'accordait mon pardon. Et je souris pour la troisième fois.
Chapitre 12. Et l'ange dépouilla son enveloppe terrestre et se revêtit de lumière. Les yeux humains ne purent en supporter l'éclat. Il éleva sa voix, qui sembla venir non de lui mais du ciel, et il dit « Et je compris que l'homme ne vit pas de ses besoins à lui, mais qu'il vit par l'amour. Il n'était pas donné à la mère de savoir ce qui ferait vivre ses enfants. Il n'était pas donné aux marines de savoir ce qu'il lui fallait. Il n'est donné à aucun homme de savoir s'il lui faudra ce soir des bottes pour lui vivant ou des sandales pour lui mort. Je restais vivant quand j'étais homme, non que je prisse soin de moi-même, mais parce qu'il y a eu de l'amour chez un passant et chez sa femme. Ils eurent pitié de moi et mes mères. Les orphelines vécurent, non qu'on eût songé à elles, mais parce qu'une femme avait l'amour dans son cœur. Les hommes vivent, non qu'ils songent à eux-mêmes, mais parce que l'amour est dans le cœur des hommes. Je savais auparavant que Dieu a donné la vie aux hommes et a voulu qu'ils vivent. Maintenant, j'ai compris que Dieu ne veut pas que l'homme vive seul, et c'est pourquoi il cache à chacun ce dont il a besoin. Il veut que chacun vive pour les autres, et c'est pourquoi il révèle à chacun ce qui est utile à la fois à lui-même et aux autres. Je compris alors que les hommes, qui croient vivre uniquement de leurs propres soucis, ne vivent en réalité que par l'amour seul. Celui qui est en l'amour est en Dieu, et Dieu vit en lui. Car Dieu, c'est l'amour. Et l'ange chanta les louanges de Dieu. Sa voix fit trembler l'isba. Le toit s'ouvrit, une colonne de feu s'élança de la terre au ciel. Siemen, sa femme et ses enfants se prosternèrent sur le sol. L'ange ouvrit grande ses ailes et remonta dans les cieux. Quand Siemen revint à lui, l'isba avait repris son aspect et personne ne s'y trouvait plus, hormis lui et les siens.